Bonjour à tous, vous êtes sur Fréquence Mistral et nous sommes en direct de Manosque pour notre magazine mensuel consacré au tourisme dans le territoire de la DLVA. Et pour cela, nous retrouvons François Malabave et ses invités. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Notre thème aujourd'hui est en préambule d'une saison que nous attendons avec impatience, des loisirs pour les familles.
Oui Olivier, le territoire de l'agglomération manosquine, comme la Provence d'ailleurs, offre de nombreuses activités en direction des familles. C'est le sujet que nous allons développer durant ce magazine avec des reportages et des invités. Nous allons accueillir le directeur de l'Office communautaire de tourisme et de la DLVA, Jean-Frédéric Gontier, et sa collègue en charge du sujet, Audrey Meyer. Votre invité, Michel Roubaud, pour le club nautique Esparron de Verdon, une structure qui fait le bonheur des petits et des grands depuis plus de 50 ans. À tout à l'heure. Et puis pendant cette émission, nous irons à Gréoux-les-Bains, Valensole et Saint-Martin-de-Brome au plus près des acteurs du territoire et vous verrez que les propositions sont alléchantes. Bonne émission. Premier invité, c'est avec grand plaisir que je le reçois. Jean-Frédéric Gontier, vous dirigez l'Office de tourisme communautaire de la DLVA, de Durance-Luberon-Verdon agglomération. Bonjour.
Bonjour François et bonjour aux auditeurs qui nous écoutent.
Alors, vous êtes en charge de cet office de tourisme. Je suppose que le rôle de l'office de tourisme, c'est de valoriser les ressources du territoire.
Oui, alors c'est une des missions régaliennes d'un office de tourisme que de communiquer et de faire la promotion en fait de ce territoire à fort potentiel. Bien entendu, nous sommes dans une grande région touristique, la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, et notre territoire regorge de ressources. Nous avons, pour donner un chiffre, recensé à peu près 4000 offres à la disposition de nos touristes et de nos visiteurs. On part de l'hébergement, mais on arrive au restaurant en passant par un tas d'activités pour les différentes clientèles que nous accueillons.
On rappelle également que l'office communautaire est présent sur le territoire en bien des endroits.
Oui, nous assurons un maillage territorial. Nous ouvrons des bureaux d'accueil dans les communes de Gréoux-les-Bains, Manosque, Quinçon, Oraison, Valensole et Riez, et cela toute l'année.
Comment est-ce que vous structurez l'offre et comment vous organisez cette offre?
Alors la structuration de l'offre, ça peut paraître un peu technique, mais c'est un peu, j'allais dire, la première étape avant de communiquer et de promouvoir le territoire. On essaye de sectoriser aussi un petit peu notre communication. Donc cibler l'offre, c'est la travailler, c'est la mettre un peu en musique, c'est la recenser, c'est la mettre à jour tous les ans. Et puis ensuite, en fonction de notre stratégie de communication, on vient cibler la clientèle et on amène cette offre auprès de cette clientèle à travers différents supports. Nous sommes de temps en temps présents sur des opérations de promotion en France et à l'étranger. Nous animons des sites internet qui sont aujourd'hui très importants dans le monde de la communication. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Nous sommes également présents, et on l'oublie un peu, beaucoup, pendant le séjour de ces touristes, en mettant à leur disposition différents supports de communication pour qu'ils puissent, comme ça, pendant leur séjour, finalement, passer d'agréables vacances.
Vous avez aussi de nombreux partenaires, je pense aux hébergeurs, bien sûr, je pense aux communes, par exemple, et aux collectivités, aux associations, les clubs.
Oui, c'est un travail, encore une fois, c'est un travail de longue haleine que d'animer un petit peu ce réseau autour de l'Office de tourisme qui est énorme, qui est composé de différents acteurs, vous l'avez dit. Tout d'abord, les élus qui donnent aussi un petit peu la stratégie. Les hébergeurs qui font le tourisme sur ce territoire, en tout cas l'économie touristique, et puis après un tas d'activités gérées par des associations, des acteurs privés. Donc on essaie de les mettre en réseau, de les animer tout au long de l'année et d'essayer de aussi les aider à monter un peu en compétence et en gamme par rapport aux attentes et aux comportements de ces visiteurs qui malheureusement changent tous les ans.
Malheureusement ou heureusement aussi.
Ou heureusement.
Peut-être.
Ça dépend comment on peut le prendre, oui.
Alors, Jean-Frédéric, le thème de cette émission, c'est des loisirs pour les familles. Quel est le poids du segment famille pour votre activité?
Alors, la clientèle famille représente, on va dire, une clientèle prioritaire pour notre territoire. C'est une de nos quatre cibles, la clientèle famille. C'est une clientèle qui vient sur des longs séjours estivaux. Originaire de pour certains de régions françaises, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Nord-Pas-de-Calais, mais également venus de pays européens très proches comme la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Italie. Donc cette clientèle familiale fréquente notre territoire souvent en été et fait, on va dire, à peu près 60% de l'activité touristique de ce territoire.
Avec également une clientèle asiatique, on le sait, il y a une crise sanitaire particulière qui nous a un petit peu embêté l'année dernière, mais on reviendra avec vous sur le bilan de l'année 2020, Jean-Frédéric. À vos côtés, il y a Audrey Meyer, qui est votre collègue, elle est conseillère en séjour et en charge de la stratégie famille, justement, elle est en poste à Quinçon. Bonjour Audrey.
Bonjour François.
Un territoire sans animation ne peut pas attirer de visiteurs, et à plus forte raison des groupes familiaux. Audrey, vous avez conçu et mis en œuvre plusieurs outils en direction des familles.
Oui, l'offre famille proposée par notre office de tourisme, c'est une offre qui s'articule autour de la découverte du patrimoine. Il y a un volet patrimonial très important et la découverte du patrimoine par le jeu. Parce qu'on apprend en jouant et on a décidé de décliner cette offre particulière autour aussi de la découverte, de la visite, en s'amusant sur notre territoire.
Vous avez donc créé des outils pour cela ?
Tout à fait. Depuis 2018, avec la société Randoland, nous concevons des circuits ludiques que l'on pourrait apparenter en fait à des jeux de piste. Et les enfants, accompagnés et guidés par leurs parents, vont résoudre des énigmes en lien avec le patrimoine architectural ou paysager. Il y a toujours un petit scénario de départ, une énigme finale à résoudre et les parents accompagnés d'une petite mascotte à travers des fiches, il y a des supports de fiches, vont résoudre ces énigmes et revenir dans les offices une fois qu'ils ont terminé ce jeu de piste pour venir chercher une petite récompense.
C'est très important aussi d'avoir ce lien avec les offices sur le territoire.
Absolument. Et nous proposons pas moins de 13 parcours ludiques sur le territoire. Donc, je vais les citer brièvement. 2 pour Gréoux-les-Bains, 1 pour Manosque, Riez, Quinçon, Oraison, Valensole, Esparon de Verdon, Vinon-sur-Verdon, Saint-Martin-de-Brome, Puy-Michel, Pierre-Vert et Montfuron qui viennent tout juste les trois dernières. Puy-Michel, Pierre-Vert et Montfuron viennent de sortir. Donc, c'est l'occasion de découvrir de façon ludique et différente.
Alors, vous l'avez compris, il y a de quoi faire sur le territoire. Et puis, vous travaillez aussi avec des partenaires sur justement ces communes et ces territoires, avec notamment, on va le voir dans cette émission, plusieurs endroits qui sont particulièrement dynamiques. Comment ça se passe, les relations avec vos partenaires ?
Oui, nous essayons de fédérer, notamment à travers un guide famille qui vient juste de sortir, fédérer nos prestataires. Donc nous les avons sélectionnés, nous avons trouvé ensemble une plus-value pour les familles et tout cela est consigné dans un guide famille qui sera disponible très prochainement dans nos offices de tourisme, dès maintenant, puisque les offices sont réouverts, et également téléchargeable sur notre site internet.
Alors, avec les animations, il y a un autre volet qui est extrêmement important pour les familles, ce sont les conditions d'hébergement. Je suppose que les offices de tourisme renseignent et aiguillent les familles.
Bien sûr, notre territoire regorge d'hébergements à destination des familles, notamment à travers des campings qui sont très nombreux et très mobilisés pour accueillir ce type de clientèle, ainsi que les villages vacances. C'est vraiment un territoire qui est dédié à la famille, à mon sens.
Est-ce que les familles se renseignent en amont avant de venir dans notre territoire?
Oui, bien sûr.
Par le biais d'Internet,
ils
probablement
le peuvent, absolument, sur une page dédiée de notre site Internet. Durance-luberon-verdon.com.
Alors, on va partir à la campagne, si vous voulez bien. Vous avez parlé de campagne. On va aller à Valensole, très exactement sur la route d'Oraison, à la ferme de la Pierrine. Et notre ami Olivier est allé faire un reportage auprès de Christine Souchon, qui est en charge de cette ferme. Une ferme très particulière, vous allez entendre, vous allez vite comprendre, avec notamment une chaîne vertueuse, avec des groupes de tous âges qui peuvent venir, qui peuvent accompagner aussi des animaux dans le pâturage, jusqu'à la traite, le biberon, enfin bref, c'est assez passionnant, les familles à la ferme et à la ferme de la Pierrine.
Christine Souchon, nous sommes chez vous entre Valensole et Oraison. Alors, nous sommes à la ferme de la Pierrine.
À la ferme de la Pierrine, on fait du fromage de chèvre, on fait des pains d'épices, on fait du miel, on fait des amandes caramélisées, de la confiture de lait. Et on a aussi des gîtes et on fait aussi des balades avec les chèvres qui sont agrémentées d'autres petites activités à côté.
Vos produits, on peut les trouver à la ferme ?
Alors on peut les trouver à la ferme essentiellement et bientôt, j'espère, sur le marché d'Oraison.
Alors aujourd'hui, nous voyons dans le cadre de cette émission consacrée plus particulièrement aux loisirs pour les jeunes et les enfants, vous avez une activité destinée particulièrement aux enfants.
Voilà, donc c'est la balade avec les chèvres. Alors en fait, ça consiste à aller garder les chèvres en colline et on va vraiment au rythme des chèvres. Donc on fait des petites pauses pendant ces pauses qui va permettre aux chèvres de manger. Je vais donner des explications sur les chèvres, sur la faune, sur la flore, sur mon métier. J'explique tout ça, donc ça dure une petite heure, une heure et quart. Donc c'est adapté à tous les publics. Aux plus petits comme aux plus âgés ou aux plus grands. Et après, au retour, on fait une petite dégustation de tous les produits. Et ensuite, on rentre dans la bergerie, on va voir les chèvres. Là, en ce moment, il y a des cabris, on donne éventuellement les biberons. Et on va aussi découvrir les cochons. Donc, on découvre le cochon. Je vous explique aussi ce que c'est qu'un cochon. Et en fait, les gens découvrent aussi cet animal-là. Et à la suite de tout ça, on fait une petite initiation à la traite. Donc, j'apprends à tout le monde à traire les chèvres à la main. Et en même temps, on déguste le lait, on goûte le lait.
Je pense que les enfants doivent être émerveillés, non ?
Les enfants sont émerveillés, sont fascinés par le lait qui descend dans le seau. Enfin, ouais, les enfants sont en général émerveillés. Et surtout, ce qui est remarquable, c'est qu'ils ne sont pas effrayés, quoi. Ils sont vraiment très à l'aise, en général. Voilà.
Et en général, c'est des enfants de quel âge ?
Ah, il y a tous les âges.
Tous les âges.
Vraiment tous les âges. Il y a même des petits de 6 mois. Et donc, là, dans ce cas-là, évidemment, ils ne font pas la traite. Mais bon, on leur fait toucher le pis. Ça leur permet de découvrir, d'avoir quand même des sensations. Et voilà, c'est pas les plus effrayants, plus souvent, ils sont bien intéressants et même pendant la balade, il y a pas de problème. Ils aiment bien profiter, avoir les chèvres qui leur tournent autour et ça se passe très bien.
Pour s'inscrire, comment doit-on procéder ?
Alors, pour s'inscrire, soit on passe par le site Airbnb dans la rubrique expérience, soit on m'appelle en direct. Je bloque les créneaux pour les personnes qui sont intéressées. Mon numéro, c'est le 06 78 96 43 69. On peut nous retrouver sur le site Facebook et Instagram et notre site aussi, Ferme la Pierrine.
La Pierrine avec deux R.
Ouais, avec deux R, voilà.
Les enfants sont aussi confrontés au métier de chevrier ou chevrière ?
Oui, bon, ils découvrent ce que c'est que le métier. Je parle d'agriculture, on parle d'agriculture, de l'agriculture extensive, parce que là, c'est le cas. Le respect des animaux, ce qu'elles mangent, la gestation, on explique bien en détail ce que c'est qu'une chèvre, d'où vient la chèvre, les raisons pour lesquelles on peut les élever. Et ils posent plein de questions très intéressantes.
Ce sont des groupes de combien de jeunes environ ?
Alors en ce moment, avec le Covid, donc on est tenu, je me suis renseignée auprès de la préfecture, on est tenu à des groupes de 6, pas plus. Et en général, on monte pas plus de 10-12, parce qu'après ça fait vraiment des trop gros groupes. Le troupeau est de 15 chèvres à peu près, donc ça ferait plus d'humains que de chèvres, après c'est pas trop intéressant.
Et les enfants, ce sont souvent des enfants de la région ou de partout ?
Alors non, il y a beaucoup de gens qui viennent de Toulon, de Nice, de Marseille, Bouches-du-Rhône, Var. Après oui, il y en a de... Là, avec le confinement, on a eu un peu... J'ai travaillé un peu dans le local, mais non, ça vient un peu partout, d'un peu partout.
Et puis profiter d'un cadre splendide.
Voilà, puisque la moitié de la balade se termine sur un champ de lavande, dans lequel on fait une petite halte. Là, à ce moment-là, on fait une petite lecture de paysage. On voit le Ventoux, on voit la montagne de Lure, on voit les Alpes. Enfin, j'explique un peu tout ça aussi.
Ah, nous sommes dans la chèvrerie. Elles sont absolument magnifiques. Et certaines, vous m'avez dit, sont assez rares.
Oui, le troupeau est composé de 4 races. Il y a des Girgentana, c'est une race sicilienne qui est en voie d'extinction. Il en reste à peu près 700 dans le monde actuellement. Après, il y a les Alpines chamoisées, la classique, la marron. Après, il y a une Anglo-Nubienne, qui la caractéristique avec ses grandes oreilles, là, qui est très belle. Et la dernière, Provençale, c'est la race typique de la région, les Provençales.
Et vous avez un autre animal qui est très utile, auquel on n'aurait pas pensé.
Voilà, on a une canne, enfin il y a des canards dans la bergerie. Alors les canards sont utilisés pour justement nettoyer la litière, nettoyer la bergerie, notamment l'été, elles mangent toutes les mouches, donc il n'y a pas de mouches l'été, et la litière est nettoyée de tous les insectes, donc c'est un animal, on ne le nourrit pas. Ça fait plus d'un an qu'elle est là, elle me pond des œufs, elle n'est pas du tout maigre, hein, elle va très bien. Et donc elle navigue en fait entre la chèvrerie, la partie où il y a les cochons, et tout le monde cohabite bien ensemble, et elle est bien respectée. Et ils sont bien contents de l'avoir. Les chèvres sont bien contents d'avoir la canne. C'est vrai parce que quand au départ j'en avais 3 et ma chienne elle n'avait pas compris le concept donc elle en a goûté 2. Voyez,
ouais. Ah oui.
Et donc il ne restait plus que celle-là donc je l'ai descendue dans le poulailler et elle m'a fait une dépression. Donc j'ai été obligée de la ramener là et depuis elle est très heureuse.
On peut dire une chaîne vertueuse alors.
Exactement, c'est le but. Ouais, c'est ça l'idée de la ferme, c'est une chaîne vertueuse. Alors bon, on fait ce qu'on peut, hein. C'est pas toujours vertueux mais enfin en tout cas c'est exactement le but de la ferme, c'est tout à fait l'esprit dans lequel je travaille, ouais, c'est ça.
Retour en plateau, vous êtes dans l'émission spéciale tourisme des loisirs pour les familles. Audrey Meyer, ce côté rural, comme on a vu là avec la ferme de la Pierrine et Christine Souchon, ça parle aux visiteurs ?
Énormément. Et d'ailleurs, je voudrais aborder ce point en ces temps incertains de crise sanitaire que nous vivons. La famille est vraiment une valeur refuge. La nature aussi, on vient de le voir. Et notre territoire a cette capacité de pouvoir accueillir les familles sur un territoire rural où on peut s'initier aussi bien au nautisme, à l'escalade, à la randonnée, être consommateur avec la ferme de la Pierrine, comme on vient de le voir, et pratiquer voilà de nombreuses activités en vacances ou en week-end. On se retrouve en famille, on casse les codes du quotidien et un quotidien dont les dimensions ont été restreintes ces derniers temps. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre à nos familles en visite, qu'elles viennent de loin ou pas, d'ailleurs, de vivre des expériences, de recréer des liens, de créer des souvenirs et de recréer de la joie avec un accueil toujours teinté de bienveillance dans nos bureaux d'information touristique et je l'espère de conseils avisés. Mais connaissant mes collègues, j'ai pas trop de soucis là-dessus.
Oui, avec en même temps ce lien avec le territoire. Là, on l'a vu, une agricultrice. Et puis, il y a d'autres choses. Ce contact direct, notamment des enfants, avec les animaux, avec les agriculteurs, avec les produits de la ferme, c'est fondamental. Et je suppose que ça part de succès dans les visiteurs qui viennent dans notre territoire.
Oui, comme je disais, ça les rend consommateurs. Ils découvrent vraiment la nature au plus près, comme le font les agriculteurs. Ils deviennent consommateurs et créatifs. Il y a un lien qui se joue aussi avec les humains, les animaux, et c'est quelque chose qui plaît énormément aux familles, effectivement.
Alors, on va rester dans la campagne, si vous voulez bien, avec d'abord une mise au point. Une ânerie, savez-vous, ce n'est pas uniquement une sottise. C'est d'abord un endroit où l'on élève des ânes, des quadrupèdes attachants dont les enfants raffolent. Nous allons voir ça avec notre deuxième reportage. Olivier Moulis s'est rendu à Saint-Martin-de-Brome, près de Gréoux-les-Bains, à la safranerie de Lucien Bode, qui, avec son épouse Magali, conjugue sa passion de l'animal avec la culture du safran.
Lucien Baud, vous êtes avec votre femme propriétaire de la safranerie.
On a fait une création d'entreprise il y a quelques années et après on est passé en tant qu'agriculteur sur le Saint-Martin-de-Brome. On est aujourd'hui producteur de safran et ânier avec notre troupeau de aujourd'hui 15 ânes qu'on a avec nous. On fait avec eux de l'animation village, on fait des balades à dos d'âne, de la médiation animale et du coaching équin aussi avec les 3 chevaux qu'on a. Voilà.
Alors la médiation animale, ça doit bien fonctionner parce qu'ils sont plus que câlins. Hein. Ils sont venus directement vers nous, à peine entrés, et se chercher des caresses.
Oui, en fait, c'est un animal qui est très sociable puisqu'il vit avec nous depuis très longtemps, depuis des siècles. L'âne est proche de l'homme. Et après, on essaie de leur donner un contact très, très sociable pour qu'on puisse s'approcher d'eux avec les enfants, tout ça, et d'enlever cette pensée qu'on a de l'âne qui donne toujours des coups de pied ou des morsures ou des trucs comme ça. Qui, voilà. C'est assez, on arrive à avoir confiance en eux et ça fait que voilà, c'est un animal qui est très proche de nous, quoi.
Si l'âne a cette réputation-là, c'est que peut-être il était simplement maltraité.
Ben, disons que dans le temps, l'animal était utilisé comme un outil, on va dire, entre guillemets. Il devait produire aussi vite que l'homme produit, quoi. Et voilà, donc il fallait qu'il avance. On cherchait pas à lui de savoir s'il était fatigué, s'il avait un besoin quelconque sur la journée ou sur le moment, quoi.
Magali Nogier-Baud, vous êtes avec Lucien, donc la créatrice de la safranerie. Alors comme on le voyait, la safranerie, tout est dit.
Oui, exactement, si on comprend le jeu de mots. Donc il y a safran et ânerie. Donc on propose des activités avec les ânes et des produits au safran qu'on produit ici à Saint-Martin.
Des produits au safran tels que ?
On produit du safran brut qui est proposé en filament, des confitures avec des fruits et du safran, des sirops, vinaigre... Et gelé.
Le safran, c'est des pistils, en fait, de
oui,
la fleur, c'est ça?
Exactement. Ce sont les pistils entiers qui sont à mettre à infuser pour intégrer dans des recettes, comme par exemple dans la paella, c'est l'èmre, ou dans la soupe de poisson, dans des desserts aussi, avec, par exemple, dans des brioches, dans des crèmes desserts. Enfin voilà, il peut y avoir plein d'idées à utiliser avec le safran.
Et pour ce qui concerne les ânes, vous louez vos ânes,
oui.
pour des promenades.
Oui.
Vous emmenez des enfants, vous avez affaire aussi aux écoliers, aux vacanciers.
Alors oui, on a régulièrement des groupes de centres de loisirs, des écoles, des crèches même. Et puis ensuite, en individuel, des familles, donc plus souvent des gens qui sont en vacances dans le secteur. Sinon, aussi des locaux qui viennent les week-ends et pendant les vacances scolaires. Donc on est ouvert toute l'année, il faut réserver pour venir faire une balade avec Nan. Donc c'est bien de réserver au moins 2 jours avant. Donc c'est des balades qui durent de 1 heure jusqu'à 2 jours. Donc il y a plusieurs formules, on peut les voir sur notre site internet, c'est safranerie.fr.
Un numéro de téléphone éventuellement?
Oui, alors 06 79 82 29 95.
Vous êtes près du Colors, une rivière qui vient de...
De Saint-Jurs et qui se jette dans le Verdon. Et nous, on est situé à Saint-Martin-de-Brome, donc entre Allemagne-en-Provence et Gréoux-les-Bains.
Est-ce qu'en ces temps de pandémie, ça a changé un peu vos pratiques?
Pas vraiment sur tout ce qui est accueil des familles de façon individuelle, puisque ce sont des familles qui viennent de leur côté. Donc il y a on met à disposition du gel hydroalcoolique et puis les personnes viennent avec un masque. Et ensuite, ils partent sur la balade en famille avec l'animal, sans nous. Donc du coup, là, ils peuvent être libres de mettre un masque ou pas. C'est des personnes qui vivent déjà ensemble. Ça a changé au niveau des groupes, principalement, du coup, parce qu'on est limité sur les accueils de groupes. Pour les groupes d'enfants, c'est possible d'accueillir encore des groupes d'enfants qui viennent d'école ou de centres aérés. Pour les balades avec les ânes, c'est disponible pour les enfants de tous âges. Ils peuvent monter sur les ânes jusqu'à 40 kilos. Au-dessus, c'est aussi très agréable de faire une balade en compagnie des animaux et de s'occuper d'eux, de les brosser, de partir à pied en leur compagnie. Et les enfants en dessous de 4 ans ont besoin d'être accompagnés par 2 adultes parce que l'équilibre est encore un peu précaire sur les ânes.
En plus des balades, vous proposez un rendez-vous hebdomadaire.
Exactement, on appelle ça le « Je parraine un âne ». Donc c'est proposé pour les familles avec des enfants qui peuvent choisir un âne dans le troupeau qu'ils vont parrainer. Ils vont pouvoir venir rendre visite tous les samedis matins de 10h à midi avec notre accompagnement. On va s'occuper de l'animal, apprendre des choses sur lui et puis faire des jeux, des activités avec cet animal pour lequel on s'attache beaucoup en général.
Et enfin Magali, les 2 ânesses que l'on verra sur une des photos qui seront publiées sur notre site. Ça s'appelle comment ?
Alors c'est Flanelle, la maman, et Layette qui est la petite ânesse qui est née le 4 mars, voilà, qui est toute mignonne et qui pince un peu les fesses.
Ce sont des ânes de Provence ?
Oui, tout à fait. On a une activité d'élevage d'ânes de Provence qui sont typiques gris avec la croix de Saint-André sur le dos. Voilà, ce joli marquage.
La croix de Saint-André sur les ânes de Provence, c'est à la safranerie Saint-Martin-de-Brome. Évidemment, nous vous recommandons d'y aller et de voir ces magnifiques bêtes en compagnie de Magali et Lucien Baud. Jean-Frédéric Gontier et Audrey Meyer, tous les deux de l'Office de Tourisme. Voilà une activité originale du territoire, la safranerie.
Oui, activité très originale et on a affaire, je pense que les gens l'ont compris, à des passionnés. et combien sur ce territoire nous avons des gens passionnés par ce qu'ils font, et en même temps des personnes qui ont réussi aussi une diversification de leur activité. On voit, ils sont à la fois producteurs de safran, et on les retrouve sur de nombreux marchés sur le territoire, mais à la fois aussi producteurs d'offres pour le coup, puisqu'ils proposent avec leurs animaux des balades pour les touristes. Et je trouve que c'est un vrai exemple et c'est une vraie réussite sur ce territoire, mais il y en a plein d'autres. Et on pourrait passer du temps à vous les énumérer. Donc j'invite les personnes à se rapprocher de l'Office du tourisme pour avoir tous ces guides et tous ces supports que nous mettons à disposition des habitants, mais des touristes. Donc n'hésitez pas, parce que véritablement, on a des pépites sur ce territoire.
Comme la safranerie et d'autres, donc, vous l'avez dit. Et puis vous savez aussi, la Provence, c'est une terre d'eau, grâce notamment à plusieurs retenues artificielles. Je cite pour les Alpes du Sud, le lac de Serre-Ponçon, celui de Sainte-Croix, et qui font le bonheur des résidents comme des touristes. Pour profiter des bienfaits aquatiques, des acteurs locaux ont créé leur propre structure, et c'est le cas au lac d'Esparron de Verdon, près de Gréoux-les-Bains, du CNEV, le club nautique d'Esparron-Verdon. Bonjour Michel Roubaud, vous êtes le trésorier du centre de ce club. Bonjour.
Bonjour François.
Nous allons parler avec vous de vos propositions, de vos équipements nautiques, mais d'abord un mot sur les 50 ans de votre club qui ont eu lieu il y a 4 ans déjà.
Tout à fait François. Donc le club nautique a été créé donc en 1967, en même temps que la création et la mise en eau du lac d'Esparron-Verdon. Donc je pense qu'il y a un petit rappel historique et qui est nécessaire. Donc c'est un petit village à vocation agricole, un petit peu isolé. La création du lac, bien sûr, a changé complètement la physionomie de ce village et son économie. On est passé d'une économie très rurale à une économie touristique qui s'est mise en place progressivement. Alors, le club nautique entame cette année sa 54e saison. Il est situé donc en bas du village Esparron et surtout à l'entrée des basses gorges du Verdon, qui est un endroit magnifique, donc les basses gorges du Verdon, qui relient Esparron à Quinçon sur 8 km. C'est un endroit exceptionnel avec une flore et une faune très riches, avec des espèces protégées. C'est un endroit accessible à tous, y compris aux tout petits enfants. Il n'y a pas de courant, les basses gorges se situent entre deux retenues d'eau. Moi ce que je vais dire, c'est, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais je voudrais quand même parler du club nautique à ses origines. Donc il a été créé par quelques dizaines de personnes, une centaine de personnes qui ont créé cette association.
Pas forcément d'ailleurs des habitants d'Esparron.
Tout à fait. C'était des habitants des environs, de Gréoux-les-Bains, de Vinon, de Manosque, etc. C'était déjà, il y a un apport de membres extérieurs. Tout simplement par rapport à l'histoire de ce club nautique, et je voudrais un tout petit peu par rapport à la thématique de la famille, parce que le club nautique à l'origine c'est une histoire de famille. Les plus anciens membres du club nautique m'ont parlé un petit peu de ce qui s'est passé à l'origine. C'était les familles qui venaient, des petits enfants jusqu'aux grands parents. Donc certains, les jeunes faisaient des activités sportives comme la planche à voile, donc c'était la belle époque, du voilier dériveur. Les parents qui faisaient des activités un peu plus paisibles, soit du canoë, soit du bateau habitable. Le grand-père qui allait à la pêche. Et ce qu'on m'a raconté, je trouve que c'est assez savoureux, c'est une grand-mère qui venait tous les week-ends pour tricoter sur le club nautique.
Au calme.
Alors, au calme. Alors, les choses ont changé, les fonctionnements familiaux ont évolué, bien entendu, les pratiques aussi. Mais cette histoire de famille, il en reste aujourd'hui de grosses traces.
C'est ancré chez vous.
C'est tout à fait ancré. Et aujourd'hui, l'accueil des familles. Alors, personnellement, je n'ai pas vu de grand-mère tricoter, mais on vient toujours en famille avec les tout-petits qui font leur premier pas sur l'eau, enfin, si je peux m'exprimer ainsi. Les jeunes sur des activités très sportives. Et puis les familles qui viennent faire des activités plus paisibles sur l'eau, du canoë, ou pas d'activité sur l'eau du tout, hein, puisqu'on peut visiter le village avec son château. On peut visiter son sentier botanique. Et puis, on peut aussi venir y lire, les gens y viennent y lire, discuter, et puis on peut aller visiter les alentours, aller visiter les ânes, enfin je parle de ceux de la safranerie à Saint-Martin-de-Brome.
Donc c'est un tout ce territoire, effectivement.
C'est un tout.
Michel, qu'est-ce que vous avez comme équipement spécifique qui vous permet justement de proposer des activités aux familles?
Alors, donc le club nautique, bien sûr, propose des activités pour ses presque 500 membres suivant les années, mais aussi à tout public venu de tous horizons. Alors, le club est ouvert du 1er mars au 30 novembre, donc une amplitude d'ouverture importante. Et 7 jours sur 7, à partir du mois d'avril jusqu'en septembre, une équipe de 3 salariés, donc 2 moniteurs diplômés d'État, et jusqu'à 7 à 8 saisonniers en période estivale, notamment pour la location de matériel. Avant de parler des matériels, je tiens à préciser que le club nautique a demandé et obtenu la marque d'État qualité tourisme en 2014.
Une reconnaissance, donc.
C'est un label qui certifie, qui atteste la qualité des services, des installations et de l'accueil. Donc c'est un label qui est renouvelé périodiquement. Très important. Le club nautique d'Esperon était la première base nautique en France à obtenir cette marque d'État. Le club nautique est affilié à la Fédération française de voile, Fédération française d'aviron pour la partie sportive. Les activités proposées sont la voile, les voiliers, catamaran, planche à voile, mais aussi on fait aussi du paddle, du canoë, du kayak, de l'aviron, et on propose des activités en voilier collectif, donc une activité beaucoup plus paisible, tranquille. Au club nautique, on a aussi un port associatif avec des pêcheurs et des plaisanciers qui font de la voile. Alors au club nautique, on vient y faire du loisir nautique, mais quelque chose de très paisible, de très tranquille, comme du paddle, comme du canoë. Et on a toute l'année un enseignement de voile avec, ça commence par les tout petits à partir de 3 ans, le jardin des lacs qui commence à 3 ans, jusqu'à une équipe de compétition qui s'inscrive sur des régates régionales, voire nationales sur certaines années.
Vous avez aussi, Michel, en préparant cette émission, vous avez parlé d'un volet environnemental qui vous anime, parce que il faut protéger ce territoire. Vous l'avez dit, et effectivement, vous transmettez des messages par le biais de vos activités.
Tout à fait. La sensibilisation à cet environnement naturel qui est magnifique, mais en même temps fragile. Nous sensibilisons les personnes effectivement au respect de cet environnement, notamment le tri des déchets, et puis rappeler que le lac d'Esperon est une réserve d'eau potable, une des plus grandes réserves d'eau potable en France et je crois en Europe aussi. Dans les activités encadrées, cet aspect est toujours évoqué systématiquement. Il faut rappeler aussi que les formations qui sont validées par la Fédération française de voile contiennent une thématique connaissance du milieu aquatique et protection de l'environnement. C'est vraiment une préoccupation constante au club nautique.
Et c'est une préoccupation que vous transmettez régulièrement à vos visiteurs, qu'ils soient réguliers ou ponctuels.
Tout à fait, tout à fait. Donc je parlais du tri des déchets, je parlais aussi d'une problématique de nuisance sonore. Alors, une nuisance sonore avec les nouveaux matériels pour faire la musique, c'est vrai que ça a pu poser des problèmes à certains moments. Donc c'est vrai que là, c'est un environnement naturel magnifique et il faut faire attention ne serait-ce qu'aux autres, de ne pas nuire pour le bien-être des autres, et notamment dans les basses gorges du Verdon, à toute une faune dont une partie des espèces sont protégées.
Alors, vous avez parlé de nuisances sonores, je ne peux pas louper ça. Il n'y a pas de ski nautique chez vous, hein. Attention, il n'y a pas de bateau à moteur non plus.
Il n'y a pas de ski nautique, il n'y a pas de bateau à moteur thermique, sauf quelques-uns pour la sécurité. Et là, ce que je voudrais dire spécialement par rapport au club nautique, c'est que nous avons une dérogation pour utiliser des moteurs thermiques pour l'aspect sécurité et encadrement des activités nautiques, mais nous avons pris les devants et depuis 2-3 ans nous investissons sur des bateaux électriques qui aujourd'hui ont la puissance suffisante pour remplacer des bateaux à moteur thermique. Tout cela pour arriver d'ici à court terme à supprimer nos moteurs thermiques sur le lac d'Esparon.
On est passé donc du tricot jusqu'au moteur électrique.
Tout à fait.
En plus de 50 ans.
Un dernier mot sur les moteurs électriques. C'est des investissements qui sont assez importants, parce que ce sont des bateaux assez puissants. Et nous avons pu le faire grâce à une subvention de la région sud, dans le cadre du plan voile 2024. Puisque les Jeux Olympiques de 2024, la partie épreuve de voile se situeront à Marseille.
Très bien, bonne chose, et de faire le lien avec notre territoire à Esparron de Verdon et ce club nautique. Merci beaucoup Michel Roubaud. Vous restez avec nous, hein, on va vous demander quelques mots de conclusion tout à l'heure. On va partir du côté de sur la tout à fait la route de Manosque-Vinon, Château-Laval, enfin cet endroit un peu mythique, magique autour de Gréoux-les-Bains, et on va suivre Corinne Guillon de Verdon Aventure et son Canyon Park. C'est le dernier reportage, on se retrouve tout de suite après.
Corinne Guillon, vous avez créé deux lieux sur Gréoux, deux lieux de loisirs, de quoi s'agit-il ?
Il s'agit des parcours aventure, appelés OPAH, acrobranche communément, je dirais. J'ai deux sites, un qui se trouve dans un parc animalier domestique sur la route de Manosque et Vinon-sur-Verdon. Celui-ci, je l'ai créé en 2005. Il comporte 10 parcours, des parcours adaptés à tout public, puisque l'on prend les enfants des 3 ans et demi. De 3 ans et demi, après, on a le record, c'était 90 ans, un monsieur qui a voulu faire les parcours, donc il s'est très très bien débrouillé. Et le deuxième site qui se trouve dans le domaine de Château-Laval, donc route de Valensole à la sortie de Gréoux-les-Bains. Celui-ci, c'est pas une création, je l'ai acheté l'année dernière, malheureusement pendant le confinement au mois de mai. Celui-ci, pareil, un parcours adapté aussi bien aux petits qu'aux grands, puisque nous avons un petit parcours qui se trouve dans un pré, adapté aux enfants des 3 ans et demi. Et que ce soit celui qui se trouve dans le parc animalier domestique ou celui de Gréoux-les-Bains, nous sommes en sécurité continue. C'est-à-dire qu'au niveau des participants, il n'y a aucun risque de chute, puisque l'enfant ou l'adulte, dès le départ, est attaché à la ligne de vie et jusqu'à ce qu'il ait les pieds au sol, reste attaché.
Est-ce qu'il y a un encadrement ?
Alors, nous avons bien sûr des moniteurs qualifiés, titulaires d'un CQP, c'est-à-dire d'un brevet de qualification professionnelle propre à notre activité, qui leur permet d'accueillir, bien sûr, les clients, de les initier, c'est-à-dire l'initiation est obligatoire, c'est une prise d'information concernant la façon de s'attacher, la façon de faire les tyroliennes, etc. Donner conseil en un premier temps et, au pire des cas, descendre la personne si elle se trouve en difficulté ou fatiguée.
Qu'est-ce qu'un parcours ?
Alors, un parcours, c'est une succession d'ateliers, hein, c'est-à-dire ce sont des parcours qui sont à hauteur, donc la hauteur varie bien sûr selon le type de parcours. Donc, c'est une succession d'ateliers qui sont des ponts de singes, des tyroliennes, des sauts, etc. Des plateformes sont installées autour des arbres, des plateformes en bois. Ensuite, il y a un câblage qui est fait autour des arbres avec une protection, bien sûr, de cale autour des arbres. Et la personne évolue d'atelier en atelier, c'est-à-dire de pont de singe, d'une tyrolienne, d'un saut, etc., pour arriver ensuite au sol et finir son parcours, pour monter ensuite sur un autre parcours. Donc, de difficultés supérieures si la personne se sent, ou équivalentes ou inférieures si jamais ce parcours-là a été un peu trop difficile pour elle.
Ces deux parcs ont la même dénomination, ils ont le même nom ?
Alors, ces deux parcs appartiennent à la SARL Verdon Aventure, mais ont deux noms différents. Donc, celui qui se trouve dans le bois de Laval, c'est Canyon Park. Et le premier, Verdon Aventure, puisque comme j'en avais qu'un, j'ai mis le nom de la société, c'était plus facile.
Si l'on souhaite s'inscrire, venir ici, comment doit-on procéder ? Vous avez un site ?
Alors, il y a deux sites différents, hein, deux sites différents avec deux numéros de téléphone différents, où l'on peut éventuellement réserver via le site ou simplement par le numéro de téléphone, m'appeler. Et moi, suite à ça, je réserve le créneau horaire qui vous sont les mieux adaptés. À savoir que ce soit que sur l'un ou sur l'autre, il n'y a pas de limitation de temps. Donc, il faut quand même prévoir une bonne demi-journée. Après, les personnes peuvent très bien prendre leur pique-nique et passer la journée chez nous, au contraire.
Le public toute l'année varie, ou des vacanciers, des gens de la région, des gens qui viennent de partout ?
Bon, actuellement, c'est un petit peu compliqué, mais sinon, non. Sinon, on a une petite clientèle très fidèle aux alentours de notre parc, que ce soit dans le bassin de Manosque ou un petit peu plus loin autour des lacs. Donc ça, c'est une clientèle qui vient régulièrement. Et après, bien sûr, une grosse clientèle touristique qui commence normalement dès les vacances de Pâques, parce que les beaux jours sont là. Et puis, bien sûr, juillet-août, c'est quand même très important au niveau touristique.
Et comment ça va se passer cette année ?
On attend les autorisations, un peu compliqué tout de même parce que ça fait déjà l'année dernière on est passé à travers les vacances de Pâques. Cette année, moi j'y crois pas trop vu la situation actuelle, j'espère que ça va se débloquer. On est en train de travailler puisqu'on a fait des nouveautés sur les deux parcours pour justement proposer dès notre ouverture des choses nouvelles, notamment un nouveau parcours, une totalité de parcours sur Canyon Park qui va permettre un petit peu de désengorger les parcours juniors. Et sur Verdon Aventure, nous sommes en train également de faire des modifications avec un accueil différent, des casiers à vestiaires, une terrasse, enfin voilà. Nous y travaillons et ben, nous espérons que les vacances de Pâques puissent se faire. Sinon, ben, on attend de savoir.
Parce que pour l'instant, vous êtes fermé.
Ah, pour l'instant, je suis fermé, oui. On n'a aucune autorisation, on n'a pas repris notre activité. On a fermé fin octobre lors du deuxième confinement et on attend.
Une question enfin plus personnelle. Qu'est-ce qui vous a tenté dans cette aventure de créer ces parcs?
Alors moi, je suis très branchée sport, hein, pas particulièrement, j'étais pas branchée ni escalade, ni j'étais quand même dans le commerce depuis tout le temps. Je trouve que c'est une activité qui permet de faire quelque chose à sensation, tout en étant en sécurité. Voilà, donc moi, c'est la sécurité qui privilégie le tout, hein. C'est-à-dire qu'on arrive à faire des choses avec beaucoup de hauteur, plus ou moins physique aussi, ça dépend des parcours. Toujours attaché, c'est très ludique aussi, puisqu'on retrouve des vélos, on retrouve des skates, des selles de cheval qui sont en l'air. C'est ce côté un petit peu ludique, tout en sécurité, et un petit peu quand même à sensation qui m'a beaucoup plu. Et puis la relation avec les gens viennent s'amuser, donc sont contents, et nous aussi on est contents de leur apporter un petit peu de bonheur et d'évasion, quoi.
Peut-être un loisir familial également.
Et également, voilà. En plus, l'avantage, c'est que tous nos parcours sont adaptés aussi bien aux petits qu'aux grands. Et l'avantage même d'accompagner ses enfants, c'est que l'on peut, si l'enfant se débrouille bien sur les parcs dont il a accès, s'il veut tout seul, peut accéder à des parcours supérieurs. Après, c'est juste une question de taille, hein. Donc, le fait qu'il soit encadré avec ses parents, ça permet de l'aider sur certains points d'accroche. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de familles qui viennent et qui peuvent faire pas mal de choses avec leurs enfants, et c'est intéressant.
Corinne Guyon, Verdon Aventure sur la route de Vinon et Château-Laval, entre Manosque et Gréoux-les-Bains. Avant de demander un mot de conclusion à nos invités, Jean-Frédéric Gontier, il a été question du confinement dans ces reportages. De quelle manière votre office et vos partenaires avaient vécu cette, ou plutôt ces périodes inédites?
Oui, vous l'avez dit, période inédite, et à période inédite, organisation chamboulée, on s'est complètement un peu réorganisé, réinventé aussi. Nous sommes au lendemain d'un troisième confinement. C'est vrai que ça dure, cette crise sanitaire dure énormément, plus qu'on pouvait le croire au tout début. Et nous avons bénéficié, comme toutes les entreprises, d'aide aussi pour essayer de passer ce cap de la crise sanitaire qui s'est transformée aussi un peu en crise économique. Et donc nous sommes très contents aujourd'hui de voir enfin peut-être le bout du tunnel, nous l'espérons vivement. Et on croise les doigts pour qu'on puisse vivre finalement une saison touristique qui soit à la hauteur de nos espérances et de nos attentes.
Alors il y a juste une information d'actualité, Jean-Frédéric, on l'a appris hier, les thermes de Gréoux-les-Bains vont pouvoir enfin réouvrir comme tous les thermes de France à partir du 19 mai, même si c'est dans une configuration réduite. Ça, c'est une bonne chose parce que effectivement, ce sont des visiteurs qui vont venir et c'est une activité ô combien importante. Je pense aussi à nos amis dignois du territoire. Et donc, je pense que Lucien Morin est un homme heureux aujourd'hui et qui se tourne vers l'avenir enfin.
Oui, vous l'avez dit, très bonne nouvelle aujourd'hui, une information qui est tombée hier. Je salue d'ailleurs le travail réalisé par le maire de Gréoux-les-Bains, Paul Audan, qui s'est tant activé durant cette période pour justement faire que de cette filière thermale soit représentée et pas oubliée. Donc, effectivement, vous l'avez dit, les thermes en France vont pouvoir réouvrir à partir du 19 mai avec une jauge à 50% jusque fin juin pour redémarrer à 100% à partir du 1er juillet. Vous avez rappelé le côté économique de l'activité thermale, effectivement, deux stations thermales dans le département, Digne-les-Bains et Gréoux-les-Bains. Et donc c'est une vraie, vraie bonne nouvelle pour le territoire, et dire aussi aux auditeurs qui nous écoutent et qui peut-être bénéficient de cette activité, combien les curistes ont envie de revenir en cure. Il y a une impatience par cette clientèle, donc on les attend en tout cas avec beaucoup d'envie.
et même les personnes qui ne bénéficient pas des cures, évidemment. Oui. Et on est confiant. Vous êtes confiant donc pour la saison. D'ailleurs, l'année dernière, ça s'est relativement bien passé pour notre département.
Je crois qu'il faut rester confiant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les établissements l'année dernière ont réouvert pendant 4 mois et demi et aucun cas a avéré dans les établissements thermo-français. Donc, un protocole important à respecter et un retour d'expérience qui prouve que finalement, on peut faire une cure en toute sécurité aujourd'hui, malgré le contexte sanitaire.
Alors Jean-Frédéric, je reviendrai vers vous dans un instant. On va demander à Audrey Meyer quelques mots de conclusion. Et surtout, Audrey, vous avez une proposition à faire à nos auditeurs.
Oui, alors le premier d'entre vous qui enverra un mail à la radio gagnera un livret d'une valeur de 8 euros que vous pouvez trouver dans nos offices de tourisme qui s'appelle « Balade à jouer ». C'est un livret cher à mon cœur qui a été conçu tout comme les balades Randoland dont je vous parlais avec la société Randoland, qui s'adresse aux adultes et aux jeunes à partir de 10-12 ans. Et chaque agglomération est décrite, de l'agglomération DLVA est décrite et s'y trouvent des parcours à énigmes. Donc c'est vraiment un produit qui est safe. Monsieur Gontier parlait de sécurité. Vous êtes en autonomie avec votre famille et vous résolvez des énigmes sur tout le territoire. Voilà, vos week-ends ou semaines déconfinées vont être bien chargés.
Vous avez plusieurs exemplaires à proposer aux auditeurs ?
Oui, tout à fait. C'est un livret qui regroupe toutes les communes de l'agglomération et nous en proposons trois. Les trois premiers emails reçus seront les gagnants de ces balades à jouer.
Donc n'hésitez pas, contact@frequencemistral.com et vous irez vous promener utilement dans notre territoire. Et puis je rappelle aussi la sortie de votre document, de votre livret, ici, des activités pour toute la famille, qui est sorti aujourd'hui.
Donc, exactement.
Et c'est une bonne chose. C'est, là aussi, vous êtes confiant et vous visez l'avenir. À vous, Michel Roubaud, de vous mettre à l'eau, évidemment, je ne pouvais pas la louper.
Oui, François.
Pour une conclusion, s'il vous plaît.
Oui, donc le club nautique cette année est prêt à accueillir de nombreuses personnes. L'année 2020 a connu une fréquentation exceptionnelle sur ce plan, notamment en termes de location de matériel, mais aussi de stagiaires voile. Nous avons eu plus de 320 personnes qui sont venues faire un stage de voile. Et après ces différents confinements, une activité de plein air, qu'elle soit sportive ou plus tranquille, fera énormément de bien, que ce soit sur le plan physique ou psychologique, parce que ces confinements ont quand même laissé des traces, notamment chez les jeunes, mais pas que chez les jeunes.
On en est persuadé, vous allez certainement passer une très belle saison. On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Michel Roubaud.
Merci
François. Et puis Jean-Frédéric Gontier, on rappelle aussi que ce magazine est une coproduction entre l'Office de tourisme communautaire de Durance-Luberon-Verdon et Agglomération et Fréquence Mistral. Votre conclusion ?
Conclusion, ravi déjà de ce partenariat et de co-construire avec vous une émission qui met en valeur notre beau territoire de l'agglomération. Et puis vous dire combien on est très content à l'Office de tourisme que de sortir de ce troisième confinement et enfin on a une vraie visibilité, un vrai calendrier et on va pouvoir comme ça remettre en route tout un tas d'activités. Donc je suis très content pour l'économie touristique de ce territoire.
La prochaine émission, c'est le 1er juin. Vous avez un thème déjà qui est fixé ?
Oui, on parlera de tourisme à vélo, de circuits VTT, de mobilité douce. Voilà, on a beaucoup beaucoup de choses à dire et avec l'ensemble de nos acteurs sur cette filière-là, on retrouvera les auditeurs avec beaucoup de plaisir pour parler de vélo et de VTT.
Une belle activité donc, ce sera le 1er juin prochain. Merci beaucoup Jean-Frédéric Gontier, merci beaucoup Michel Roubaud, merci aussi Audrey Meyer et puis merci à notre ami Olivier Mouly qui a fait la régie et surtout ces trois magnifiques reportages. Vous retrouvez notre émission sur notre site internet avec beaucoup de photos qui ont été faites notamment chez nos amis que l'on a visités et que vous avez visités, Olivier. Merci, à bientôt.
À bientôt, François, et merci à tous.